السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. On s'est arrêté la dernière fois dans la bataille de Uhud à cette grande confusion qui a valu que la bataille bascule d'un début de victoire vers une défaite et un échec pour les musulmans. Et on s'est arrêté la dernière fois au dernier point, parce qu'on a dit qu'il y a eu plusieurs choses qui sont parties dans un cycle d'engrenage: la cavalerie, le mont des archers, la cavalerie. Et le dernier point, c'était la rumeur du fait que le prophète sallam aurait été tué, et comment les musulmans ont réagi face à cette rumeur. Donc là, on s'est arrêté la dernière fois, comment les compagnons réagissent face à cette rumeur. Les idolâtres, évidemment, ça les galvanise. Ça remonte leur morale. Les musulmans, ça vient, on va dire, les achever. Déjà, qu'ils ont vu que le mont des archers avait été pris par la cavalerie, que la cavalerie les prend en étau et que les autres qu'ils pourchassaient devant sont revenus. C'est la dispersion parmi les musulmans, on ne comprend plus rien. On ne trouve pas l'étendard des musulmans qui flotte. Par contre, on voit reflotter celui des idolâtres, alors qu'à aucun moment depuis le début de la bataille il avait flotté. Et on ne trouve plus le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et par-dessus tout on entend qu'il a été tué. Et aujourd'hui, alors on avait dit que parmi les réactions négatives, parce qu'on s'est beaucoup arrêté sur ça, parce que la plupart des réactions elles ont été négatives. Il y a ceux qui ont fui sans demander leur reste. Sans même savoir ça va être quoi la suite des événements, ils ont fui jusqu'à arriver à Médine. Mais comme on avait dit, il y a un verset qui a été révélé, dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Inna alladhina tawallaw minkum yawma altaqa al-jam'an, innama istazallahum ash-shaytan bi ba'di ma kasabu, wa laqad 'afa Allahu 'anhum. » Ceux d'entre vous, Allah Azza wa Jal s'adresse aux compagnons, ceux d'entre vous qui ont fui le jour où les deux groupes se sont entrechoqués, yani, se sont affrontés, ils n'ont fait que suivre les insufflations du diable. Mais Allah Azza wa Jal leur a pardonné. Et parmi ceux-là, on avait cité un hadith dans Sahih al-Bukhari où certaines personnes posaient la question sur Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, c'est un des compagnons les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a marié avec deux de ses filles, Ruqayya et Umm Kulthum. Uthman ibn Affan était surnommé Dhul Nurayn, l'homme de lumière, par rapport justement à ces deux mariages. Uthman ibn Affan va être désigné troisième calife, bien guidé, parmi les quatre califes bien guidés. Non. Et il a subi, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, il a subi la propagande, les fausses rumeurs à son égard. et il est resté ferme. Et cela l'a même conduit à sacrifier sa vie, puisqu'il va être assassiné, en interdisant à quiconque parmi les compagnons qui ne demande que ça, à prendre sa défense, puisque c'est le calife, reconnu par tous les musulmans, il va interdire à quiconque de prendre les armes pour affronter ceux qui l'assiègent. Et Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, ses rumeurs à son égard continueront même après sa mort. Comme on avait vu dans cette narration authentifiée par le Bukhari, où quelqu'un est venu demander au compagnon Abdullah ibn Omar, quand il sera très vieux, est-ce que, dis-moi la vérité, est-ce que Uthman ibn Affan, est-il vrai qu'il n'a pas assisté à Badr? Il lui a dit, c'est vrai. Est-il vrai qu'il n'a pas assisté à Uhud? C'est vrai. Est-il vrai qu'il n'a pas assisté au serment d'allégeance de Redouan? C'est vrai. Et il va dire Allahu Akbar. Tellement ça va l'étonner, ça va le choquer, il y en a dans le sens. Donc c'est vrai ce qu'on raconte. C'était pas faux. Allahu Akbar. Non. Et donc, Abdullah ibn Omar va lui dire, attends aussi, il faut les explications. Et on avait vu toutes les explications qu'il avait données pour chacune de ces choses-là. Ala kulli hal. Ça, on l'a vu la semaine dernière. Maintenant, on va s'intéresser à l'élite parmi les compagnons qui, face à la rumeur de la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vont rester fermes. Ils vont non seulement être fermes, mais ils vont appeler les autres à l'être et à le rester. On ne parle pas d'une situation difficile. La guerre, c'est très difficile. La guerre, tu es en train de risquer ta vie. Ils sont en train de risquer leur vie. Et c'est plus que ça, là. Ils sont dans une situation où n'importe quel être humain peut se dire « tout est perdu ». Et c'est pour ça qu'il y a des compagnons qui ont fui sans demander leur reste, qui sont partis jusqu'à Médine, sans savoir même ce qui va se passer après. On ne veut même plus le savoir. Tout est perdu. Tout est anéanti. Le prophète s'en est mort. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais il y a une minorité de compagnons qui vont s'illustrer à ce moment-là. Alors quand je dis une minorité, entendons-nous bien. Face à ceux qui vont entendre parler de la rumeur de la mort du professeur Hassan, parce que moi je n'ai pas encore parlé, là, depuis plusieurs épisodes, on parle de ce qui se passe par rapport à tout cet engrenage, comme je l'ai dit, de la confusion dans la bataille, qui va transformer la victoire en échec. Par contre, on n'est pas encore parti s'intéresser à il est où finalement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si c'est qu'une rumeur et qu'il n'est pas mort. Et qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il est tout seul? Parce qu'autour de lui, comme on le verra, il y a quand même des compagnons autour de lui et eux, évidemment, ils ne sont pas touchés par la rumeur puisqu'ils sont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils le voient devant lui. Donc quand je parle d'une minorité, je parle de ceux qui ont eu accès à cette rumeur et qu'ils ne voient pas de leurs yeux le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces élites, il y en a, et ça, ça nous montre aussi une chose. Ça nous montre que dans chaque événement difficile de la vie, il y aura toujours plusieurs réactions parmi les individus. On est des êtres humains et chacun il réagit différemment en fonction. Pourtant, l'événement, il est le même. Et peut-être qu'on est des frères et sœurs de la même famille. Et il y a quelque chose qui va toucher, par exemple, qui va accabler notre famille. On est tous des frères et sœurs, on a le même père, la même mère. Et il y a un événement tragique qui touche notre famille, ça peut être un décès, ça peut être une épreuve, ça, peu importe, ça touche notre famille. Et chacun, pourtant c'est la même fratrie, va réagir différemment. Ça, on le vit par expérience dans nos familles. Il y en a, ils vont s'énerver, il y en a, ils vont être plus calmes, il y en a, ils vont être sidérés, il y en a, ils vont chercher à faire, il y en a, ils vont se précipiter, il y en a, ils vont être patients, etc., etc. Et bien, ici, de manière collective aussi, on voit que c'est à travers les événements aussi les plus difficiles que les gens s'illustrent. Les événements difficiles, c'est comme un filtre. C'est ce qui va permettre de distinguer les vrais défauts. Quand je dis les vrais défauts, c'est un peu dur comme mais en tout cas ceux qui sont plus fermes que les autres. Ceux qui ont une conviction sans aucune hésitation. Alors c'est facile de dire quand tout va bien, ah moi t'inquiète pas, moi je suis fort, moi j'y crois, jamais je vais retourner en arrière. Moi. Quand je dis que je crois en ça, c'est tout. Et dès qu'on lui propose un petit peu plus d'argent, ou qu'on le menace d'un danger, là finalement tout il s'écroule. Moi j'ai jamais dit ça, mais non, mais je disais, mais c'était pour rire. Eh bien c'est dans ce genre d'événement qu'on voit. Mais c'est aussi dans ce... C'est pas, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de voir les autres. C'est que ces événements-là sont un miroir pour toi. Quand il t'arrive une chose dure dans ta vie, il y en a, tu es toujours persuadé tous les jours, quand tout va bien, qu'il n'y a aucun problème. Et d'un coup, il va se passer quelque chose dans ta vie. Est-ce que malgré cet événement qui est extrêmement difficile, tu vas te dire finalement, j'ai bien réagi. Alors remercie Allah si tu réagis bien. Parce que si tu as bien réagi, c'est d'abord grâce à Allah Azza wa Jal. Donc il ne faut pas oublier d'abord d'être reconnaissant envers Allah. Et ensuite, sache que ça c'est un signe pour te dire, Alhamdulillah, tu es sur le bon chemin. Continue comme ça. Fais encore plus d'efforts. Quant à celui qui voit qu'à travers un événement, il réagit mal, il fait partie de ceux qui réagissent mal, et c'est seulement après qu'il se dit, mince, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça au moment où c'est arrivé, j'aurais pas dû parler comme ça, etc. Il se rend compte qu'il n'aurait pas dû. Bah, tant mieux en réalité. Certes, c'est mauvais, c'est négatif pour lui, mais en même temps c'est positif dans le sens où pour lui c'est un miroir. Donc quand je dis ça permet de voir, c'est ça permet de nous voir nous. Et de se dire, là, ça me montre que ce que je me prétends à moi-même et ce dont je suis convaincu, soi-disant, je ne suis pas encore assez ferme. Ma foi n'est pas encore assez forte. Donc il faut que je redouble d'efforts pour qu'au prochain événement, j'arrive à me prouver que c'est bon. Je suis fort face aux événements difficiles de la vie. Et là, on va parler de ces compagnons-là, par rapport face à la rumeur de la mort du professeur Hassan sur le champ de bataille de Uhud. On commence évidemment par Thabit ibn Dahdah, même si on a déjà parlé de lui. On le rappelle succinctement. Radiallahu anhu. On avait dit une version qui le cite, lui, précisément, avec son nom, Thabit ibn Dahdah. Déjà, à propos de qui, le professeur Hassan avait dit il aura des branches lourdes de palmiers au paradis. Par rapport au fait que il y avait une histoire entre deux voisins, il y a quelqu'un qui construisait un mur autour de son jardin, c'était un orphelin, et il y avait un arbre, un palmier du voisin qui était exactement sur la limite de là où il voulait construire son jardin, donc ça le gênait. Et soit il met le mur en dehors de l'arbre et ça lui fait manger dans son terrain toute une marge, soit il le fait exactement à la limite mais il est empêché par l'arbre. Donc il a demandé au voisin de lui donner, parce qu'il n'a pas les moyens de l'acheter, il lui a dit, jamais de la vie. Je ne te donne pas mon arbre. Et il a demandé au professeur Hassim de lui parler, le professeur Hassim lui a parlé, il a dit non, c'est mon arbre. Le professeur Hassim lui a dit, j'en ai essayé, il ne veut pas, c'est son haq. On ne peut pas lui forcer à te donner quelque chose. Et quand Thabit ibn Dahdah, il a entendu ça, il est parti, il lui a dit, moi je t'achète ton arbre, auquel tu tiens tant, contre mon jardin tout entier. Dans un jardin, il y a des arbres, il y a des puits, il y a plein de choses, des champs. Et il a dit d'accord. Et il est parti, il lui a donné l'arbre à l'orphelin pour qu'il puisse construire son mur. Et c'est à cette occasion que le professeur Hassim lui a dit, lui, ce n'est pas juste un palmier qu'il aura, c'est des branches, des palmiers lourds qu'il aura au paradis. Et bien, Thabit ibn Dahdah, radiyallahu anhu, quand il arrive à Uhud, au moment où il y aura tout ça, cette rumeur, il va dire « Ya ma'ashar al-ansar »« Ô vous les compagnons de Médine !» Pourquoi il s'adresse aux compagnons de Médine? On sait que dans l'armée des musulmans, il y a les deux. Il y a les ansar, les compagnons de Médine, et il y a les compagnons de la Mecque, le muhajiroun. Mais lui, il s'adresse particulièrement à l'ansar parce que lui, il fait partie des ansar. Lui, il fait partie des Ansar. Et donc, il veut d'abord parler aux Ansar. une certaine manière de... Pourquoi? Parce que les Ansar, c'est ceux pour lesquels le shaitan il a le plus d'arguments. Au moment où on a l'impression que tout est perdu, shaitan il a plus d'arguments contre les Ansar que contre les Muhajirun. Parce que les Muhajirun, d'une certaine manière, ils avaient déjà tout perdu. On leur a tout pris. On les a expulsés de chez eux, on a confisqué leurs biens à la Mecque. Ils se sont retrouvés réfugiés dans une ville qu'ils ne connaissaient pas, dans laquelle ils ne possédaient rien. Ils ont dû tout reprendre. Donc tout est, ils viennent d'arriver dans cette ville. Tout est déjà perdu pour eux. Ils n'ont, entre guillemets, ils n'ont plus rien à perdre. Et donc lui, il sait ce que c'est, les partisans de Médine, comme lui, peuvent penser à ce moment-là. Ils peuvent se dire, sauf qui peut. Finalement, cette histoire ne me regarde plus. Moi, j'avais prêté serment d'allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort. C'était lui que je voulais défendre, pas le reste. Ah. Et sans aucun doute que Shaitan, il s'amuse avec eux à ce moment-là. D'ailleurs, Abu Sufyan a essayé. Au début de la bataille, quand il est venu les voir, et il leur a dit, avant que la bataille ne commence, il s'est adressé à toute l'armée des musulmans. Il leur a dit, « Oh, vous les Ansar, vous les musulmans de Médine, on n'a rien à voir avec vous. On n'a aucun problème avec vous. Retournez chez vous et laissez-nous régler nos affaires. C'est une affaire qui regarde une famille. On est de la même famille, on est de la même tribu avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et avec les compagnons de la Mecque. Laissez-nous régler nos affaires entre nous. Vous n'avez rien à voir là-dedans. » Mais évidemment, ils ne vont pas l'écouter. Mais à ce moment-là, au moment où il y a une défaite pour les musulmans et au moment où ils pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été tué, ils peuvent se dire « J'ai fait ce que j'ai pu, c'est bon. Mon devoir est fini. » C'est pour ça qu'il s'adresse en particulier aux Ansar. Il leur dit, « Ya ma'ashara al-Ansar, Thabit ibn al-Dahdah, radiyallahu anhu. Oh vous, les Ansar de Médine. In kana Muhammadun qad qutila. Si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été tué, fa inna Allah hayyun la yamut. Sachez qu'Allah est le vivant, il ne meurt pas. » C'est pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on lutte, qu'on sacrifie tant. C'est pour Allah. Et Allah est toujours là. Et il ne mourra jamais. فَقَاتِلُوا عَلَى دِينِكُمْ. Alors combattez, luttez pour votre religion. فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُكُمْ وَمُظَفِّرُكُمْ. Car Allah vous donnera la victoire. Et il vous donnera le triomphe. فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُكُمْ وَمُظَفِّرُكُمْ. Non seulement lui il reste ferme, mais il appelle les autres à l'être et regarde tout l'espoir et la confiance qu'il a en Allah Azzawajal, malgré qu'à ce moment là très probablement il a un fort doute sur le fait que ce soit probablement vrai que le prophète sallam a été tué, puisqu'il le dit, il le suppose, il dit, in kana muhammadan qad qutil fa inna Allah hayyun la yamut. Si le prophète est mort et a été tué, eh bien Allah il est vivant, il ne meurt pas. Donc il suppose que oui, ça peut être vrai. Mais il dit, et alors ? Allah, lui, il est vivant. Et là, à ce moment-là, il va réussir à ce moment précis, et c'est pas rien quand même. Hein. C'est pas rien. La version, elle nous dit, فَنَهَدَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ. Et à ce moment-là, un groupe, un nafar, on avait dit la dernière fois, c'est entre 3 et 10. C'est pas en dessous de 3, c'est pas au-dessus de 10. Un petit groupe entre 3 et 10 personnes se sont levés et l'ont rejoint. On n'a pas leur nom. La version ne nous précise pas qui ils sont. Ils sont anonymes. Comme on entend les soldats anonymes. Et ils vont tous perdre la vie quelques instants plus tard. Et on n'a pas leur nom. Vous imaginez ? Non. Radiallahu anhu. Qu'Allah les agrée. Et donc Thabit ibn al-Dahdah, il a réussi à faire ça à ce moment si difficile. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaye. Pour lui, le principal problème, c'est la cavalerie qui est en train de les prendre en étau. Donc il va essayer de faire quelque chose. Lui, il est allé, on va dire au maximum, ils sont 10, Mardish, on va dire. Pourtant la version nous dit entre 3 et 10. C'est possible qu'il ne soit que 4 qui l'ont rejoint. Nous, on va dire, allez, on va dire qu'ils sont 10. Eh bien, ils sont 11 contre 200 cavaliers. Mais dans sa tête, il se dit, le danger, il est là. Si on arrive à les repousser, À 11, c'est pas possible, c'est du suicide. Mais il essaye. Il fait ce qu'il peut. Et donc, la version nous dit فَحَمَلَ بِهِمْ عَلَى كَتِيبَةِ فُرْسَانِ خَالِدٍ. Et il va les prendre avec lui, ce groupe-là, et ils vont foncer contre la cavalerie qui arrive et qui avance vers eux. فَحَمَلَ بِهِمْ عَلَى كَتِيبَةِ فُرْسَانِ خَالِدٍ. Sur la cavalerie, et ils foncent contre la cavalerie de Khalid. فَمَا زَالَ يُقَاتِلُهُمْ. Et il ne va cesser de les combattre, ça veut dire, malgré qu'ils sont... C'est une goutte d'eau par rapport à cette cavalerie, ils vont réussir à faire un petit quelque chose. Il ne va cesser de les combattre. Donc il va quand même réussir à faire quelque chose. À les ralentir au moins un petit peu. Jusqu'à ce que ce soit Khalid qui le tue avec sa lance. Il tue qui ? Thabit ibn al-Dahdah radiallahu anhu. Wa qatala ashabahu. Et qu'il arrive aussi à tuer tous ceux qui étaient avec lui et qui l'ont accompagné. Naam. Et ensuite... La cavalerie, elle termine son travail et Anna, elle a réussi à se débarrasser de Thabit ibn al-Dahdah et de son groupe. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple qu'on peut prendre, c'est une version où on n'a pas de nom non plus. Mais on nous dit marra rajulun min al-muhajirin bi rajulin min al-ansar wa huwa yatashahhatu fi damih. Un homme parmi les compagnons des Muhajirs de la Mecque, au moment de cette bataille de Uhud, au moment de cette rumeur, va passer à côté d'un compagnon des Ansar de Médine qui est dans son sang, c'est-à-dire il a été blessé gravement, il est en train d'agoniser, il est en train de mourir, c'est fini pour lui. فَقَالَ لَهُ يَا فُلَانَ أَشَعَرْتَ أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ. Il va lui dire, oh, un tel, donc on n'a pas le nom. Donc le compagnon de la Mecque, qui est debout, tout va bien pour lui, il voit à terre quelqu'un qui est en train de mourir parmi les compagnons des Ansar, il le reconnaît. Et là, tellement il est perturbé par cette rumeur. La seule chose qu'il cherche à savoir, c'est est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Tu croises quelqu'un qui est en train de mourir, normalement tu t'inquiètes pour lui, tu lui montres que tu es avec lui, tu l'accompagnes peut-être dans ses derniers moments, tu essayes de lui donner la force. Lui-même, il cherche la force. Parce qu'il a entendu que le professeur Salim a été tué. Donc il lui dit à lui, il se dit, lui qui est dans cet état-là, peut-être qu'il a des informations. Peut-être qu'il a vu quelque chose. Il lui dit, Asha'arta anna Muhammadan qad qutil. Est-ce que tu as vu que le professeur Salim a été tué? Et il lui répond, in kana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam qad qutila faqad balagh faqatilu ala dinikum. Si le professeur sallam a été tué, c'est qu'il a réussi, il a atteint son objectif, c'est ce qu'il a toujours voulu, mourir en martyr. Alors vous aussi, luttez pour votre religion. Naam. Donc on voit ici aussi comment il va réagir dans cette bataille. Ensuite, on a Anas ibn al-Nadr, radiyallahu anhu. Anas ibn al-Nadr, radiyallahu anhu, auquel on a déjà un petit peu fait référence à lui, mais sans rentrer dans les détails, va être un compagnon qui va s'illustrer à ce moment-là, au moment de la rumeur. Et c'est un des exemples avec Thabit ibn al-Dahdah les plus flagrants, les plus frappants, les plus parlants. Anas ibn al-Nadr, une version dans le Bukhari, elle nous explique, elle nous dit. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Selon le compagnon Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Anna ammahu. Selon Anas ibn Malik, son oncle paternel, le frère de son père. C'est qui le frère de son père ? Eh bien, c'est justement celui dont on veut parler, Anas ibn al-Nadr. Anas ibn al-Nadr, c'est l'oncle paternel, c'est le frère du père de qui ? Du compagnon Anas ibn Malik. Tous les deux, ils s'appellent Anas, mais l'un c'est l'oncle et l'autre c'est le neveu. Anas ibn Malik, ce compagnon connu, c'est le neveu, c'est le fils du frère à Anas ibn al-Nadr. Ça va, vous me suivez ? Attention parce que ça va se compliquer. Le père d'Anas ibn Malik, c'était qui? C'était Malik ibn Nadr, qui lui est le frère de celui dont on veut parler, Anas ibn Nadr. Ça va? Et Anas ibn Nadr, il est important de connaître sa sœur. Désolé de vous embrouiller, mais parce qu'on va, faire référence à sa sœur dans le texte. C'est qui sa sœur? C'est Rubayya, c'est un prénom féminin, Rubayya bint Nadr. Bon, on va répéter. On a affaire à trois frères et sœurs. Malik ibn Nadr, Anas ibn Nadr et Rubayya, c'est une femme, bint Nadr. Le premier, Anas ibn Nadr, c'est le père du compagnon Anas ibn Malik. Et c'est le frère du compagnon Anas ibn Nadr. Et leur sœur, c'est Rubayya bint Nadr. Ala kulli hal. Le texte, il nous dit quoi? Et ensuite, on va bien l'expliquer en détail. Il nous dit, an Anas ibn Malik, selon le compagnon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, son oncle paternel, Anas ibn Nadr, ghaba an Badr. Il n'a pas assisté à la bataille de Badr. Faqal, ghibtu an awwal liqa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il a dit, il va dire, j'ai été absent, j'ai pas été là la première fois où le professeur sallallahu alayhi m'a combattu. Il s'en veut. J'étais pas là. Ah. Ghibtu an awwal liqa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. La in ashhadani Allah ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أُجِدُّ. Si Allah me permet d'assister au moins une fois à un combat avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah verra comment je vais être rigoureux, comment je vais être assidu dans le combat, dans la lutte. فَلَقِيَ يَوْمَ أُحُدْ. Et il va arriver, et il va vivre, à assister à la bataille de Uhud. فَلَقِيَ يَوْمَ أُحُدْ فَتَقَدَّمَ بِسَيْفِهِ. Et il va s'avancer avec son épée. فَلَقِيَ سَعْدَ بْنَ مُعَاد. Et il va rencontrer, il va croiser qui, alors qu'il s'avance avec son épée? سَعْدَ بْنُ مُعَاد رَضِيَ. Le compagnon سَعْدَ بْنُ مُعَاد. Et lui aussi, il a un grand rôle à jouer dans la bataille de Uhud, sur lequel on reviendra plus tard. Il va rencontrer Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu. Et il va lui dire, فَلَقِيَ سَعْدَ بْنَ مُعَادْ فَقَالَ لَهُ أَيْنَ يَا سَعْدْ. Tu vas où, Sa'd? Donc on a Anas ibn Nadr qui s'avance avec son épée. Pour faire quoi? Pour combattre. Et il voit qui? Il voit quelqu'un qui vient, qui va dans le sens inverse. C'est-à-dire qui part, qui quitte les lieux. Il lui dit, il a Aïna ya Sa'd. Aïna ya Sa'd, tu vas où? Et il va lui dire, Anas ibn Nadr, in kana Muhammadun qad qutila fama tasna'u. Donc ça, c'est dans d'autres versions, c'est pas celle de Al-Bukhari. Si le prophète Mohammed est mort, donc ça veut dire que Anas ibn Nadr, il s'avance au moment de cette rumeur. Si le prophète est mort, qu'est-ce qu'on va faire avec la vie? Elle va nous servir à quoi, la vie, après la mort du prophète? Dans d'autres versions, il a dit, ma tantadirun, qu'attendez-vous? Par contre, la version de Bukhari, elle nous dit précisément qu'il dit quoi à Sa'd? Il lui dit, Aïna ya Sa'd? Tu vas où, Sa'd? Inni ajidu rihal jannati duna Uhud. Toi, tu vas où, Sa'd? Moi, je sens l'odeur, le parfum du paradis avant Uhud, avant la montagne de Uhud. Il y en a, comme je vous avais dit, il y a la montagne de Uhud, Il y a l'armée des musulmans qui était au pied de la montagne de Uhud. Ils se sont avancés, ils gagnaient, ils gagnaient, ils gagnaient. La cavalerie, elle les a pris par derrière. Donc il faut s'imaginer qu'Anas ibn Nadr avance vers cette cavalerie, tout seul, pour les retenir, comme il l'a fait Thabit ibn Dahdah avec les quelques hommes qu'il avait autour de lui. Il s'avance, et donc il s'avance vers cette cavalerie, et donc sa direction, elle est, son orientation, elle est vers Uhud, vers la montagne de Uhud. Et il dit à Sa'd, toi tu vas par où? Je ne comprends pas. Moi, l'odeur du paradis, je la sens par là, vers Uhud. Je la sens aller avant d'arriver à Uhud, sous-entendu la cavalerie. C'est là qu'elle est l'odeur du paradis. Famaba, faqutila. Et il a avancé, il va s'avancer, et il va être tué, évidemment. Une cavalerie de 200 hommes, acharnés, pleins de haine et de sentiments de vengeance pour la bataille de Badr qu'ils avaient perdue. Et donc, il va s'avancer, faqutila, et il va être tué. Fama'urif. Fama'urif, ça veut dire quoi? Et on ne va pas le reconnaître. C'est-à-dire après la bataille, quand il faudra, et ça on va en revenir, ce sera une chose, un cours, ou une séance, ou un épisode en particulier sur les shuhada, les martyrs de la bataille de Uhud, au moment où ils vont être repris, reconnus pour certains, d'autres pas reconnus, et qu'ils vont être enterrés. Anas ibn Nadr radiallahu anhu fait partie de ceux qui ne sont pas reconnus. Pourquoi? Eh bien, tellement il a été, il a pris de coups. Fama'urif, on ne l'a pas reconnu. Hatta arafathu ukhtuhu, Ar-Rubayya bint Nadr. Jusqu'à ce que ce soit sa sœur qui le reconnaisse. Rubayya bint Nadr. Ça veut dire qu'on va devoir faire, dans certains cas, pour réussir à reconnaître les personnes, appel à des proches de leur famille et quelquefois des femmes. Donc elles doivent avoir accès au corps. Et le corps, il n'est pas beau à voir, puisqu'on n'arrive pas à le reconnaître. Ça veut dire le visage, il a été défiguré, etc., etc. En plus, il y a eu des mutilations. Comme on va revenir plus tard sur ça, les idolâtres vont mutiler les corps des martyrs musulmans. Et donc, c'est seulement sa sœur qui a pu le reconnaître. Comment? La version authentifiée par le Bukhari nous dit « Bishamatin ou bibananihi ». Elle va le reconnaître grâce à une tache de naissance. « Shama », c'est une tache de naissance. Et la façon nous dit où ses phalanges. Il n'y a que ses phalanges qu'elle a reconnues. Et une tache de naissance. Le où ici en arabe, il peut vouloir dire et. C'est soit l'un l'autre, ça veut dire soit c'est un doute du narrateur, il ne sait plus si c'est une tache de naissance qu'elle a reconnue ou ses phalanges. Ou alors ça peut vouloir dire, c'est grâce à ces deux choses-là qu'elle l'a reconnue. Il y avait les deux, il y avait une tache de naissance et il y avait ses phalanges qu'elle a reconnues. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'elle n'a rien reconnu à part peut-être une tache de naissance et les phalanges. Il y en a les doigts. Et pourquoi on nous dit les phalanges? On ne dit pas les doigts. On aurait pu dire elle a reconnu ses mains, elle a reconnu les doigts. Elle a reconnu ses ongles. Et c'est parce que même les doigts ont été mutilés. Il ne restait que des bouts de doigts, des phalanges. Et elle a reconnu leur particularité. Et la version nous précise aussi وَبِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ مِنْ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهْمٍ. Et on a compté sur lui, sur son corps, donc ça c'est avant la mutilation, plus de 80 et quelques بِضْعٌ وَثَمَانُونَ, 80 et quelques traces de coups, darba, des coups, ta'na, c'est des coups à l'arme blanche, ça peut être les lances, ça peut être l'épée, et des traces de flèches. Non. Anas ibn Nadr, on voit déjà dans cette version qu'il a un regret. C'est de ne pas avoir participé à la bataille de Badr. Il s'en veut. Il s'en veut tellement qu'il fait un engagement, qu'il fait une promesse. Il dit, si moi, Allah me permet d'assister à une bataille comme celle de Badr, où il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je serai à ses côtés, Allah verra, même si Allah sait tout à l'avance, ce que je vais faire et ce que je suis capable de faire. Et donc au moment où il est là et qu'on lui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, lui il se rappelle de quoi? De l'engagement qu'il a fait. De l'engagement qu'il a pris auprès d'Allah azza wa jal. Si Allah me permet, ya Allah, permets-moi de vivre ce moment. C'est ça qu'il dit. Et comme il vit ce moment-là, khlas, il va jusqu'au bout. Et il dit même au compagnon Sa'd ibn Mu'adh, tu vas où toi? L'odeur du paradis, c'est par là qu'elle se trouve. Toi, tu vas dans le sens inverse. Le GPS, quand tu mets l'odeur du paradis, le montre par là, vers Uhud. Et toi, tu vas dans le sens inverse. Et il va y aller jusqu'à ce que, comme on a dit, il ne sera pas reconnu par sa sœur, Ar-Rubayya bint Nadr. Et sa sœur, on a déjà parlé d'elle. C'est une famille qui a déjà fait entendre parler d'elle en bien à la bataille de Badr. Si vous vous rappelez, on avait dit qu'à la bataille de Badr, du côté des musulmans, il y a eu 14 morts, 14 compagnons qui sont tombés en martyr. Et parmi ces 14, il y avait un compagnon qui s'appelle Harithatu ibn Suraqa. Le compagnon Harithatu ibn Suraqa, c'est le fils de la sœur d'Anas ibn Nadr. Je vous avais dit tout à l'heure, ça va être compliqué les noms. Harithatu ibn Suraqa fait partie des 14 compagnons qui sont morts à Badr. Et il est le fils de celle qui va reconnaître son frère à Uhud grâce aux phalanges ou grâce à une tache de naissance, Ar-Rubayya bint Nadr. C'est sa mère. Et si vous vous rappelez, on avait dit que Harithatu ibn Suraqa, il fait partie de ceux à qui le prophète Asim ne permet pas de participer directement au combat de Badr. Pourquoi? Parce qu'il le considère trop jeune. Un moment sur le chemin, il va mettre de côté, il va passer en revue l'armée, il va mettre de côté certains compagnons qu'il considérera trop jeunes pour le combat. Et Harithatu ibn Suraqa en fait partie. Mais lui, il ne retourne pas à Médine. Il suit quand même l'armée et ce groupe de personnes qui sont jugées trop jeunes, ils se mettent sur un mont à Badr et ils regardent de loin ce qui se passe. La version nous dit qu'un anavaran. Regardez, il faisait partie de, entre guillemets, ceux qui regardaient, hein, les spectateurs. Il ne participe pas directement à la bataille de Badr. Et à un moment, il a soif, donc il descend de cette colline pour aller boire dans le Haoud. Vous vous rappelez, on avait dit qu'à la bataille de Badr, les musulmans avaient pris possession d'un puits qu'ils avaient gardé pour eux. Les autres puits de Badr, parce que Badr, c'est une plaine dans laquelle il y a des puits. Les caravanes ont l'habitude de camper là, de se recharger en eau, de s'abreuver, etc., de faire abreuver leurs bêtes. Badr, c'était ça. C'était, entre guillemets, pour l'époque, une sorte de grande station-service pour les voyageurs, pour les montures. Et donc, le prophète Hassan va prendre les puits. Il va boucher la plupart des puits, sauf les puits qui sont de son côté à lui. Et pour que l'eau soit plus facilement accessible pendant la bataille, parce qu'on ne va pas commencer à prendre pendant la bataille des seaux d'eau, il va faire creuser une sorte de fosse dans laquelle il va mettre de l'eau, des litres et des litres d'eau, comme ça ceux qui veulent boire, ils peuvent directement boire dans cette fosse. Et donc, Harithatu ibn Suraqa, il descend de ce mont pour boire, et au moment où il va arriver là, une flèche va l'atteindre et il va mourir à cause de cette flèche. Alors qu'il n'était même pas censé participer à la bataille. Et on nous dit même Sahmun Ta'ish, une flèche perdue. C'est-à-dire que soit on ne sait pas si c'est une flèche des musulmans ou une flèche des idolâtres qui l'a atteint, soit on dit c'est une flèche perdue dans le sens c'est malencontreusement une flèche des musulmans qui l'a atteint. Et il va mourir à cause de cette flèche, puisque cette flèche va le toucher au niveau de la gorge. Et donc, quand ils vont rentrer à Médine, personne n'ose affronter le regard de cette maman, Ar-Rubayya bint Nadr. Et elle comprend. Quand elle attend son fils, elle voit que son fils ne revient pas. Et elle essaye de chercher du regard les gens et que les gens la fuient du regard, elle comprend. Elle comprend, c'est fini, son fils ne reviendra pas. Il a été enterré à Badr, elle le comprend. Et c'est le seul fils qu'elle a. Pas d'autres enfants. Donc elle tient à elle, comme n'importe quelle maman tient à ses enfants, mais encore plus dans le sens où c'est le seul qu'elle a. Et à ce moment-là, elle va aller voir le professeur. C'est une version dans le Bukhari. Il va lui dire, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, je veux juste savoir une seule chose. Une seule chose je veux savoir. Est-ce qu'il est au paradis? Afi jannatin hu. Est-ce qu'il est dans un jardin du paradis? C'est ce que ça veut dire, Jannah. C'est le jardin du paradis. Est-ce qu'il est dans un jardin du paradis? In kana fi jannah lam abki alayh. Dans d'autres versions, asbir. S'il est dans un jardin du paradis, je ne pleurerai pas pour lui. Je patienterai dans d'autres versions. Wa illa sawfa ajtahidu fil buka. Et s'il n'est pas au paradis, alors je vais vraiment bien pleurer. Ajtahidu, c'est-à-dire je vais de manière assidue en faisant de gros efforts, je vais le faire parfaitement, il y en est bien. Dans d'autres versions, elle laisse entendre qu'elle va se lamenter. Comme les femmes le faisaient à la Jahiliya quand ils perdaient quelqu'un, ils se lamentaient, ils criaient, etc. Elle dit, je vais me lamenter. Je vais le faire avec excès. Alors, ici, on peut se poser la question, comment elle ose dire ça si c'est interdit la lamentation? Les savants précisent qu'à ce moment-là, ce n'était pas encore interdit. C'est justement juste après la bataille de Uhud que le professeur Hassan va interdire cette habitude ancestrale des tribus arabes qui avaient l'habitude de se lamenter, de crier leur mort. À ce moment-là, ce n'est pas encore interdit. Donc on pense qu'on a le droit, et on pense que c'est bien, au moment de la bataille de Badr. C'est pour ça qu'elle dit, et s'il ne va pas au paradis, eh bien je vais faire ce que la tradition nous dit de faire, et la religion ne nous interdit pas encore de le faire, c'est que je vais de la meilleure des manières le lamenter. Ou me lamenter pour lui. Et le professeur Hassan va lui répondre, « Ah, Habilti, es-tu folle ?» Professeur Hassan lui demande, est-ce que tu es devenue folle? Il ne lui demande pas, est-ce que tu es devenue folle parce que tu veux te lamenter? Non. Il lui demande, est-ce que tu es devenue folle parce qu'elle demande, est-ce qu'il est dans un jardin du paradis? Il lui dit, Ajannatun wahidatun hi? Est-ce que c'est dans un seul jardin du paradis qu'il est? Bal hiya jannat. Il est dans des jardins du paradis, ton fils. Ce n'est pas un seul jardin qu'il a. C'est des jardins. Wa asab al firdaus. Et il est même arrivé au plus haut degré des jardins du paradis, Al-Firdaus. Et toi, tu oses me demander est-ce qu'il est dans un jardin? Tu es devenue folle? Ah, et là, la maman, Arubaïa bint Nadr, elle est rassurée, même si, évidemment, c'est un grand chagrin, c'est une grande perte pour elle. Et juste un an plus tard, qu'est-ce qu'elle doit vivre? Elle doit vivre le fait qu'on a besoin de quelqu'un pour reconnaître son frère Anas ibn Nadr. Et évidemment qu'on a ramené les hommes, qu'on a ramené les plus forts, mais personne ne reconnaît. Il y a plusieurs corps, personne n'arrive à reconnaître Anas ibn Nadr. Et donc, la seule qu'on trouve et qui est d'accord pour le faire, c'est sa sœur, qui juste un an auparavant, elle a perdu son fils à Badr, alors qu'il n'était pas censé participer à la bataille et qu'il est mort d'une flèche perdue. Et là, elle vient et elle reconnaît son frère par une tache de naissance, ou les phalanges, comme on a dit. Et aussi, ce qu'on peut dire à propos de Rubaïa bint Nadr, cette femme compagnon, c'est qu'à un moment, elle a failli se faire arracher la dent. Parce que il y a eu une rixe, une altercation entre elle et une esclave. Et elle a tellement frappé fort l'esclave qu'une dent de cet esclave est tombée. Et donc, comme elle était responsable de ça, elle est partie voir les propriétaires, les maîtres de cet esclave. Elle leur a dit, voilà, on s'est disputé, je me suis bagarré avec elle. J'ai été trop fort et du coup sa dent est tombée. Je vous demande pardon. Et cette tribu, ils vont dire non, 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 non. Ah, toi tu viens, tu frappes les gens. À cause de toi, carrément, leur dent, elle tombe et tu viens, tu demandes pardon et tu crois qu'on va te pardonner comme ça facilement. Elle dit d'accord, je le comprends. J'aurais pas dû me comporter ainsi, je comprends que vous ne vouliez pas me pardonner. Dans ce cas-là, yani l'arche. L'arche en arabe, ça veut dire combien je vous dois. Yani de, je, vous, je paye, yani, on va se mettre d'accord sur des dommages et intérêts, sur le. Intérêt, attention, pas les intérêts haram. Yani, des dommages. Un dédommagement financier par rapport à tout ce que ces soins vont coûter, etc. Il y a un dédommagement par rapport au mal que j'ai fait à votre esclave. Ils vont dire même ça, on n'accepte pas. Œil pour œil, dent pour dent. Tu as fait tomber sa dent, on veut ta dent. Et donc, je refuse de me faire arracher ma dent. Et ils vont aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont soumettre cette affaire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire pardonnez-lui, c'est mieux de pardonner. Ils vont dire non. Est-ce qu'on est obligé de pardonner ou on a le droit de choisir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, c'est mieux, vous avez le droit de refuser de pardonner. Il dit non, refuse de lui pardonner. Accepter le dédommagement? Non. Alors, dans ce cas-là, si vous acceptez pas le dédommagement, à ce moment-là, il se tourne vers Rubayya bint Nadr et il lui dit je ne peux rien pour toi. Ta dent devra être arrachée. Ce que tu as fait subir à cet esclave injustement, tu dois le subir toi aussi. Et là, son frère arrive. C'est qui son frère? C'est Anas et Ibn Nadr, celui qu'elle va reconnaître à la bataille de Uhud. Il vient et il dit. Il dit au professeur sallam atuksaru faniyatu ar-rubayya ya rasul Allah, est-ce qu'on va casser, briser, arracher la dent de ma sœur ar-rubayya? Et le professeur sallam va lui dire kitabullahi al-qisas, le décret d'Allah, c'est ça, c'est la loi du talion. Et lui, il va dire, écoutez bien, il va dire, non, on ne peut pas faire ça à ma soeur. Je fais le lien qu'il y a entre lui et sa soeur. On ne peut pas faire ça à ma soeur. Et à ce moment-là, cette tribu, elle va dire, on lui pardonne. Quand ils vont voir comment ça fait mal à Anas ibn Nadr, ils vont lui dire c'est bon, on ne veut pas de dédommagement et on lui pardonne. Ajib. Et qu'est-ce qu'il va dire le professeur sallam? Il va dire aux gens, prenez garde. Parce que le compagnon Anas ibn Nadr, s'il jure de quelque chose, Allah fait en sorte que cette chose arrive. Parce que c'est comme s'il avait juré. Il a dit non, on ne peut pas faire ça à ma soeur, on ne le fera pas. Et ça, c'est parce qu'il y a des gens, ils font partie des élites. Awliya Allah. Les saints d'Allah, les awliya, les pieux, les alliés d'Allah. Ou on dit en arabe, إِذَا أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا أَبَرَّهِ. S'il jure auprès d'Allah que Allah va faire telle chose, Allah va lui faire, il va lui permettre d'accéder à cette chose. Parce que c'est comme si c'est une dua qu'il fait et il était un wali, il est proche d'Allah, Allah il exauce cette dua directement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cette occasion, il a dit à Anas ibn Nadr, il fait partie de ces gens-là. Parce que regardez, ils n'ont rien voulu savoir. Elle est partie les voir, elle leur a dit, pardonnez-moi, non, je vous paye, non. Ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé, pardonnez-lui, non. Acceptez le dédommagement, non. Et lui a dit, non, on ne fera pas ça, ma sœur. Et juste après, ils ont dit, on lui pardonne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, voilà. Anas ibn Nadr, il fait partie des gens où, quand il demande à Allah, Allah lui donne. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça et souvent ces awliya, c'est pas forcément ceux dont on pense qu'ils vont être comme ça. Nous, on cherche les awliya dans l'apparence. Comment ils s'habillent? Le qamis est court de combien de centimètres? La barbe est longue de combien de centimètres? Etc, etc. Non. Bien sûr que l'apparence, elle est importante dans l'islam aussi. Mais d'abord, il y a quelque chose, il y a un secret entre lui et Allah. C'est pour ça qu'il est wali. Il y a quelque chose que personne ne connaît en dehors de lui et d'Allah. Il fait des actions, des actes d'adoration qui sont entre lui et Allah. Et quand tu le vois dans la société, tu ne lui donnes aucune considération. Comme Uwais al-Qarani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit à propos de Uwais al-Qarani, à la fin de sa vie, il avait dit aux compagnons, comme Abu Bakr, comme Omar ibn al-Khattab, il avait dit, et lui, ce n'est pas un compagnon, Uwais al-Qarani. C'est quelqu'un qui a vécu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est converti à l'islam pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, mais il n'a jamais rencontré, vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était musulman, parce qu'il vivait au Yémen. Il va dire aux compagnons comme Abu Bakr, comme Omar, il y a un homme qui est respectueux de sa mère, qui va être respectueux de sa mère jusqu'au bout. Et grâce à ça, grâce à son respect pour sa mère, il fait partie de Awliyaullah. S'il demande quelque chose à Allah, Allah lui donne. Comme Anas ibn Malik. Cherchez-le et trouvez-le. Il fait partie des gens du Yémen. Cherchez-le et trouvez-le. Parce que si vous le trouvez, demandez-lui de faire des invocations pour vous, parce que dès qu'il demande quelque chose à Allah, Allah lui donne. Et à chaque fois qu'une délégation viendra du Yémen, Omar ibn al-Khattab, il n'a qu'un objectif. Il fait des enquêtes auprès de ces gens-là, il cherche. Toi, est-ce que tu as une mère? Ouais. Comment tu te comportes avec ta mère? Qui dans cette tribu fait partie de ton voisinage que je leur demande comment tu étais avec ta mère, etc. Il veut trouver cette personne. Et à chaque fois, il ne le trouve pas jusqu'à un jour, pendant qu'il est calife. Il est calife, une délégation vient du Yémen. Et il le cherche aussi. Et il dit, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui s'appelle Uwais? On va lui dire oui. Est-ce qu'il a une mère dont il a été très respectueux, avec laquelle il a été très bienfaisant? Oui. Où est-il? Ah, c'est un berger, il garde les moutons, lui. Mais pas avec nous. Lui, on l'utilise juste pour garder notre bétail. Et Omar ibn al-Khattab va quitter la délégation. Ceux, les représentants officiels qui sont venus le voir, il va les quitter pour aller voir leur berger qui s'occupe du bétail. Il va dire, tu t'appelles Uwais? Oui. Comment tu étais avec ta mère? Il va lui expliquer. Il va lui dire, tu es celui dont le professeur... Et il va le reconnaître dans d'autres signes. Il va dire, tu es celui dont le professeur nous a dit, trouvez-le, cherchez-le et trouvez-le et demandez-lui des doigts. S'il te plaît, fais des doigts pour moi. Quand les gens vont voir ça, évidemment, tout le monde va aller le voir. Fais des doigts pour moi. Les années vont comprendre que c'est lui dont parle le professeur, sallallahu alayhi wa sallam. À un tel point, qu'est-ce qu'il va faire, Uwais al-Qarani, radiyallahu anhu? Il va disparaître de la circulation. Il va partir vivre dans un endroit où personne ne le connaît, jusqu'à ce qu'il meure, pour vivre incognito. Naam. À la kulli hal, on a ouvert cette parenthèse par rapport au fait que Anas ibn Nadr, radiyallahu anhu, il faisait partie de ces gens-là, et il va mourir à la bataille de Uhud, et il va faire partie de l'élite face à la rumeur de la mort du professeur Hassan. À présent, après la rumeur de la mort du professeur Hassan, et comment ont réagi les compagnons face à ça, on va à présent parler de quoi? De le fait que vraiment il y a une tentative où on va presque essayer, on va essayer de tuer le professeur. Le professeur va être gravement blessé dans la bataille de Uhud, et ça c'est le prochain événement qu'on verra la fois prochaine. Bismillah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk.